Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec le dessinateur et scénariste Thierry Robin, que j'ai découvert il y a maintenant pas mal d'années avec deux séries, La mort de Staline et La mort du Tsar, publiées par les éditions d'Argo. Là, je suis avec lui pour parler de Pierre Rouge et Plume Noire, une très étonnante histoire sur l'histoire, si on peut dire, de la Chine. Thierry, bonjour, ravi de vous avoir au bout du fil. Première question, question traditionnelle qui commence toutes les bulles d'histoire. Qui êtes-vous ?
Ah, qui suis-je ? Ça, c'est une question assez compliquée, mais si on peut résumer ça à mon parcours professionnel, ça sera plus simple.
Oui.
Voilà, je suis né en 1958. J'ai découvert la bande dessinée principalement dans le magazine Spirou. Et à partir de ce moment-là, je devais avoir 10 ans, j'ai décidé de faire de la bande dessinée. Mes parents étaient d'accord, pour une époque où c'était pas si évident. Et puis voilà, j'ai mené ma barque depuis. Donc, au début, je travaillais dans un esprit assez Spirou. Et puis voilà, mais ma curiosité a fait que je me suis intéressé à 1000 autres formes de dessin, d'illustration, que ça soit... qui se passait en France à l'époque dans Métal Hurlant à suivre, aux États-Unis dans le comics, et puis j'ai créé un style comme ça, un petit peu, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, mais avec une racine franco-belge évidente, nourrie de pas mal d'influences, et d'influences chinoises aussi, aussitôt que j'ai pu avoir accès à leur production artistique. Du point de vue des histoires, ma crainte, c'est de m'ennuyer en faisant ce métier. Donc, mon grand plaisir, c'est de passer du coq à l'âne de façon assez radicale. Donc, j'ai travaillé dans des histoires chinoises fantastiques du début du siècle. À un moment, avec Lewis Trondheim, on a décidé de faire des histoires pour les tout-petits, genre 5 ans, avec une série qui s'appelait Petit Père Noël. Après, j'ai arrêté ça pour faire La mort de Staline, qui n'a strictement rien à voir. Enfin, voilà. Donc, j'adore serpenter comme ça dans des nouvelles expériences, que ce soit graphiques ou scénaristiques.
Alors, ce qui est intéressant avec cet album Pierre Rouge et Plume Noire, c'est que vous racontez que c'est une bande dessinée qui a été créée en Chine pour le marché chinois, ce qui n'est pas banal pour un auteur européen. Comment vous vous êtes retrouvé en Chine à produire une bande dessinée pour le marché chinois, donc dessinée par un auteur français ?
Ben je m'en vante et j'en suis assez fier. C'est la première fois qu'un éditeur chinois, je suis le premier auteur étranger à publier une bande dessinée directement pour le marché chinois. Dargo a acheté les droits de ce livre à l'éditeur chinois pour le publier en France, mais c'est une production, on va dire, 100% chinoise. En fait, donc je nourris un intérêt pour ce pays depuis très longtemps avec des attirances et puis des, comment je pourrais appeler ça, des déceptions. J'ai commencé à voyager dans ce pays avant Tiananmen. Tiananmen est survenu, donc c'était assez compliqué de rester fasciné par ce pays. Je le suis quand même pour des raisons qui m'échappent. Donc, j'ai fait une première série qui s'appelait Rouge de Chine chez Delcourt. Et cette série-là en particulier est arrivée sur la table d'une agence d'illustration à Pékin qui ont dû remarquer mon intérêt pour ce pays, son histoire, la fidélité que j'avais à reproduire costumes, paysages, bâtiments chinois. Ils ont eu vent de l'envie de création d'un récit commandité par une province chinoise, la province du Guizhou, qui voulait mettre en valeur un site archéologique qu'ils ont sur leur territoire. C'est la forteresse de Heilongtun, où a eu lieu une grande bataille sous l'époque Ming, et ils voulaient traduire ça en bande dessinée, et traduire ça en bande dessinée dessinée par un dessinateur étranger. Donc voilà, j'ai été mis en contact via cette agence d'illustration directement avec la province et tous ses dirigeants et les membres du Parti communiste. Donc c'était une fameuse expérience.
Pour dessiner cet album, vous avez dû aller vous installer en Chine ou tout ça s'est fait depuis la France ?
En fait, j'habitais en Belgique à l'époque encore. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours en Chine pour rencontrer ces gens-là une première fois, pour faire une visite des lieux, puisque l'idée c'était de m'imprégner des lieux et de recréer cet endroit qui a été détruit par cette guerre. Et puis il y a eu aussi beaucoup de réunions assez formelle, où j'ai montré mon travail, j'ai amené des planches originales, j'ai fait des illustrations d'essais pour montrer à quoi allait ressembler ce livre-là, parce que j'étais face à des gens qui n'avaient aucune connaissance de la bande dessinée européenne, et aucune connaissance de la bande dessinée tout court, à peine du dessin, du récit, donc il fallait les apprivoiser, les rassurer, leur montrer que j'étais capable de le faire. Une fois que le contrat a été signé, avec ma famille, on a longuement discuté du fait de peut-être déménager et aller habiter en Chine, et ce qui a été fait. Et donc, tout le livre a été dessiné sur place.
Quelle est la situation de la bande dessinée chinoise ?
La bande dessinée chinoise, faut refaire un petit historique, c'est une bande dessinée qui a été absolument brillante et énorme dans sa production, parce que dès les années 60, le gouvernement chinois a vu la bande dessinée comme un moyen d'éducation du peuple et aussi de propagande. Ça va souvent de pair, mais d'éducation, parce que ces petits livres de bande dessinée qui sont généralement des petits livres au format à l'italienne avec une image et du texte au-dessous, ont été imprimés à des millions d'exemplaires et on racontait des histoires chinoises, mais aussi ont été adaptés tout Maupassant, Victor Hugo, Shakespeare, Tolstoï, tous ces auteurs ont été adaptés en bande dessinée, plus des auteurs chinois, plus des évidemment plein de livres sur les attitudes formidables d'ouvriers chinois, les histoires habituelles, ou de soldats, ou la guerre contre les Japonais. Alors ça, il y en a des milliers de livres comme ça. Et c'est une bande dessinée qui a vraiment brillé de mille feux jusque dans les années 80, début 90. J'ai une collection absolument formidable de ces livres-là, et c'est une mine d'inspiration permanente pour moi. Sauf qu'à ce moment-là, est arrivé les animés japonais à la télévision chinoise. Et toute une nouvelle génération a commencé à s'inspirer de ce style japonais. Et donc, pratiquement du jour au lendemain, tous ces grands auteurs traditionnels qui allaient puiser leur style dans le dessin traditionnel chinois, en le modernisant, en inventant quelque chose de vraiment typiquement chinois, ont été balayés, sont devenus totalement ringards, et s'est installé depuis, et c'est la situation actuelle. Voilà, des dessinateurs qui se contentent de copier un dessin japonais de base. Donc, le monde de la bande dessinée en Chine en ce moment n'est pas vraiment excitant. Évidemment, on peut trouver des exceptions, il y a des gens formidables. Zhao Tao, c'est une jeune fille absolument douée, Lu Ming, il y a quand même des gens... Mais sur l'ensemble, un pays d'1,4 milliard, c'est difficile de trouver vraiment des auteurs de bande dessinée réellement excitants.
Alors, on va revenir à Pierre Rouge et Plume Noire. Quelle est l'histoire qu'on vous a demandé de raconter ? Parce que donc, on disait que c'était une province qui voulait mettre en valeur un site archéologique qui est quasiment détruit, c'est vraiment une ruine, d'après ce que j'ai compris. Quelle histoire on vous a demandé de raconter ? Et au final, est-ce que vous avez finalement décidé de raconter votre propre histoire ?
Bah, quand j'y suis allé, je m'attendais à être un peu noyé sous les sources historiques, des références, des anecdotes. Et puis, en fait, j'ai découvert assez vite que la Chine est un pays où on conserve beaucoup moins qu'en Europe documents, témoignages, lettres. Enfin, je suis impressionné à mon retour par la façon dont on a compilé les documents en France. Enfin, on a les minutes du procès de Jeanne d'Arc, c'est quand même des documents absolument incroyables. Là-bas, pourtant, c'est l'époque Ming, on est au 16e, 17e, je crois, quelque chose comme ça. Eh bien, tout avait pratiquement été oublié de ces événements. Le pourquoi de cette guerre, je n'ai pas eu de réponse valable sur le pourquoi de la guerre. Ou alors chacun avait son avis, s'était forgé une idée. Enfin, les sources étaient quand même assez faibles. Donc j'ai fait deux fois la visite des lieux où effectivement il y a quand même pas grand-chose à voir, puisque ça a été assez sauvage, l'attaque et la destruction de ce fort. C'était, il faut l'imaginer comme une petite cité interdite qui était sur une colline, une résidence d'été où la dynastie de cette province allait prendre les mois chauds, quoi. Et donc j'avais pour mission de raconter la construction de la citadelle quelques siècles avant, la guerre qui a été menée et la destruction, enfin la totalité de la vie de cette citadelle. Et au moment de la visite, je me suis retrouvé face à très, très peu d'éléments intéressants à raconter, ou en tout cas typiques, exotiques, je pourrais dire. J'étais face à, en fait, une histoire d'une grande banalité où on a une jalousie entre deux puissants. La guerre est déclarée, la population se retrouve réfugiée dans ce fort, à faim parce que la nourriture vient à manquer, et puis il y a un assaut final, destruction et massacre. Voilà, une histoire qui a eu lieu dans tous les continents du monde. Enfin, en France, on a 40 exemples de ce type d'histoire. Donc, voilà, je suis rentré avec ces quelques documents écrits sur une feuille et je me suis dit, va falloir ajouter du jus à tout ça, des anecdotes, des personnages. Et donc, le gros de ma réflexion, ça a été de nourrir cet embryon de récit.
Oui, d'ailleurs, le récit, comme vous dites, est vraiment très, très banal. Mais ce qui n'est pas banal du tout, c'est la galaxie de personnages qui rendent cette l'histoire que vous racontez vraiment passionnante, parce que les enjeux, les tensions entre les personnages, c'est finalement ce qui va faire avancer le récit, qui va faire avancer l'assaut. Ça, je trouve, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez brillant, et on s'attache à tous les personnages.
Pour continuer le fil de la création de ce livre-là, connaissant relativement bien la Chine, j'avais écrit une première histoire qui n'a rien à voir avec celle que vous avez lue, qui était une histoire bien plus classique, distractive, parce que leurs séries télé, leurs films sont généralement sont là pour uniquement distraire, en tout cas pas poser de questions trop complexes au public qui pourraient être tentés d'avoir des avis contraires. Donc voilà. Donc moi, bon soldat, j'avais écrit une première histoire comme ça de pure distraction. Et puis je l'ai envoyée. Ils étaient tout à fait d'accord pour la publier. Et puis au moment de commencer à la dessiner, je me suis aperçu que j'avais absolument aucune envie de raconter une histoire aussi banale. Déjà, le contexte était banal, mais alors raconter une histoire vraiment classique dans ce cadre-là, c'était vraiment trop. Donc, j'ai tout mis au panier. Et puis, je me suis dit, je vais reprendre exactement les mêmes éléments, les mêmes anecdotes, mais mais je veux en faire quelque chose d'un peu plus littéraire, on va dire, ou philosophique, si on peut employer ce mot-là. Et donc, j'ai trouvé l'idée de que l'histoire ne soit pas soit racontée par des témoins, et donc les témoins en question, c'est un corbeau qui passe par là, un peu par hasard, qui suit la file de réfugiés, et qui va aller jusqu'à cette montagne, et qui va commencer à ouvrir un dialogue avec la montagne sur laquelle a été construit ce fort. Et donc ces deux personnages-là, par leur dialogue, c'est des personnalités très différentes, c'était ça l'intérêt. On a un corbeau très cynique, une montagne pleine d'empathie pour les habitants. Et donc ces deux personnages vont être le témoin de tout le processus que j'ai raconté là, des réfugiés qui viennent jusqu'à la destruction totale de la citadelle.
Donc il y a les personnages de la citadelle, mais effectivement il y a ces deux personnages qui sont très importants, la montagne et le corbeau. Moi j'ai vu ça aussi comme une sorte de conte philosophique, hein, c'est-à-dire que ces deux personnages qui sont la nature et pas la culture, bah, c'est eux qui vont perdurer au fil des siècles. En tout cas la montagne va rester et les corbeaux de génération en génération vont aussi rester dans cet environnement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient de la Chine ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre imaginaire ou d'autres sources? Mais on a l'impression que ces animaux, c'est une façon très chinoise de raconter les choses.
Eh ben, c'est amusant parce que je suis pas chinois à ce point-là, malgré mon intérêt pour ce pays. Donc, tout ça a été inventé quand j'étais en Belgique encore, donc j'habitais même pas encore en Chine à cette époque-là. Et beaucoup de gens m'ont parlé de ça, du fait que ça ressemble à un conte chinois. Je m'interroge là-dessus, je me dis est-ce que je possède cette culture chinoise au point que ça m'échappe et que je crée moi-même des contes chinois sans m'en apercevoir, peut-être.
Avant de lire la postface, j'étais vraiment persuadé que c'était un conte chinois mis en image par un auteur européen.
C'est amusant. Non, enfin, ou alors, voilà, c'est un mélange. C'est vrai que dans mon dessin aussi, je pense que j'ai, à force de regarder ces images, il y a des éléments de la culture graphique chinoise que je dois mettre et je ne m'en aperçois plus. Je pense ça aussi.
Je voulais aussi qu'on parle des autres personnages de l'histoire, parce qu'il n'y a pas que cette montagne et le corbeau. Hein. Eux racontent tout ça vu de très haut et vu du point de vue de l'éternité. Mais il y a les personnages du fort sont assez magnifiques. Il y a notamment le roi, on va appeler ça le roi de la contrée, le roi du fort, qui est donc assiégé, qui est une espèce de roi fou, une espèce de roi obsédé par un art qu'il n'arrive pas à mettre en route. En tout cas, c'est un mauvais peintre, c'est un mauvais sculpteur, c'est visiblement un mauvais architecte, c'est quelqu'un qui se désintéresse totalement de ce qui arrive aux gens du fort. Il leur apporte des solutions un peu ridicules en peignant le nom des portes. J'ai trouvé que c'était un très très beau personnage, totalement dramatique.
Merci, oui. Il m'a été présenté avec trois mots, comme un artiste qui ne s'intéressait pas beaucoup à ce qui s'est passé là-bas. Et on m'a aussi précisé qu'effectivement, c'est lui qui aurait tué ces deux femmes à l'intérieur de la pagode où il était réfugié. Voilà, c'est les seuls éléments qu'on m'a donnés. Et donc, avec ça, j'ai construit un personnage un peu plus complet, intéressant. Et on m'avait dit aussi que c'était lui qui avait écrit la calligraphie des portes. Donc, le peu d'éléments authentiques qu'on m'a donnés, évidemment, j'ai essayé à toute fin de le replacer dans l'histoire, mais en créant un lien, en créant une continuité.
Oui, parce que ce n'est pas évident de mettre ces petits éléments dans une histoire, à la fois une histoire inventée et une histoire qui doit avoir une forme de vraisemblance.
Oui, et puis qui doit être là qui ne doit pas être là comme une leçon d'histoire. Enfin, vous devez avoir beaucoup d'invités qui vous racontent ça. Il faut intégrer tous ces éléments historiques et les oublier et que ça sorte de façon naturelle au fil du récit. Sinon, Sinon, autant lire un livre d'histoire, ça sera, au moins les choses seront plus simples. Mais par exemple, il y a des choses que je n'ai pas pu préciser. À un moment, on a une partie de l'armée ennemie est dotée d'armes à feu, et c'est un bataillon japonais. C'est un élément qu'on m'a dit, tiens, ça serait bien de mettre ça. Alors, j'ai essayé de le mettre, mais je n'ai pas réussi à placer dans la bouche d'un personnage ou l'autre, oh, regarde, ce bataillon armé est un bataillon japonais. Parce que là, c'était vraiment, vous savez, les petites notices authentiques qu'il y avait dans les livres il y a 50 ans. Donc, j'ai pas réussi à le placer dans un dialogue ou dans une note quelque part, donc je ne l'ai pas mis. Donc on a des personnages armés qui sont japonais, mais il y a très peu de personnes qui le seront.
Il y a les autres personnages qui sont les militaires. Là aussi sont des personnages. Le général est un personnage désespéré parce qu'il sait que la catastrophe arrive et qui va devoir la subir. Il y a aussi ce paysan qui se révèle un héros soldat. Là aussi, c'est des personnages qui... On vous en a parlé ou c'est des inventions complètes ?
Non, tout ça, c'est inventé. Je voyais que dans le fort, il y avait une classification où étaient réfugiés les paysans, où étaient les aristocrates, et puis... tout autour, il y avait les militaires qui étaient chargés de la défense du fort. Donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est que pour pas qu'on ait qu'une foule d'anonymes observés par le corbeau et la montagne, on ait au moins trois personnages représentatifs de chaque classe sociale, on va dire, présente dans le fort. Donc, il y a un paysan, une servante qui sert l'aristocratie, et puis un militaire qui est le général en charge de la défense du fort. Voilà, mais tout ça, non, j'avais trop peu d'éléments pour construire une histoire. Il a fallu que j'invente vraiment beaucoup de choses. Par exemple, toute la bataille finale, c'est quelque chose que j'ai inventé. Le fait que... une grande partie de l'armée dans la plaine détourne l'attention des assiégés, alors que des espèces d'hommes insectes grimpent les falaises de l'autre côté pour prendre à revers la défense du fort. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai inventées, ce qu'on peut trouver dans certains films ou d'autres récits, mais...
Oui, ben là, c'est des moments qui ressemblent vraiment à du grand cinéma chinois qui, du point de vue de l'histoire militaire, est absolument improbable et totalement inventé, mais qui, dans le fil de ces histoires, tient totalement la route parce qu'on est transporté dans un univers totalement exotique pour nous.
Oui. Ben, une partie de mon travail, c'était ça aussi, hein, c'était de faire du spectacle. J'adore faire du spectacle. Moi, j'aime beaucoup faire du cinémascope, et s'il faut dessiner 450 soldats, je suis prêt à dessiner 450 soldats pour que ça ait de l'allure. Donc, j'ai pas de souci avec ça.
Je dis aux auditeurs que les doubles pages de bataille sont absolument extraordinaires. Il y a 1000 détails, on peut s'y plonger et s'y replonger. On trouve toujours un petit quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Comment ont réagi les Chinois quand vous leur avez présenté un projet qui n'était pas le projet d'origine ? J'imagine que ça doit les dérouter. Ils ne sont pas forcément habitués à ce genre de pratiques un peu piratesques.
Ben, en tout cas, c'est vrai que j'ai eu un souci, parce que comme le premier scénario avait été accepté, quand je leur ai dit « tiens, tout qu'on fait, je n'ai pas envie de le faire celui-là », j'ai tout réécrit et voilà un autre scénario. Ils n'étaient pas d'accord, ils préféraient le premier. Et je comprends très bien, hein, ils voulaient quelque chose qui distrait les masses populaires. Et donc, un livre avec ce petit supplément philosophique où on va parler du temps, de la misère de la guerre, ça les a moins séduits. Donc j'ai dû les convaincre et ils ont accepté en fin de compte de faire l'histoire que vous avez pu lire. Mais je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, le livre leur ait vraiment beaucoup plu. J'en ai discuté avec un des éditeurs qui m'a dit « Oui, c'est pas étonnant que ça n'ait pas beaucoup plus une histoire trop particulière pour le marché chinois. » Simplement, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de bons et de méchants. Ça, c'est quelque chose d'un peu flou pour un livre de bande dessinée, surtout que la bande dessinée est considérée là-bas comme une littérature pour enfants, hein, forcément. C'est pas, y a pas de public ado-adulte pour la bande dessinée. Donc, il privilégie des histoires comme ça, bien plus lisibles, où on a forcément un méchant grimaçant et puis un héros propre sur lui. Y a aussi quelque chose que je peux résumer par il n'y a pas de glorification de la bataille non plus dans ce livre-là. C'est-à-dire que la fin est assez amère. Y a pas de gagnant, tout le monde... c'est une grande déception, cette bataille. Je ne sais pas comment conclure ça, mais...
Non, mais je voilà. comprends. Mais en même temps, on pourrait se dire, comme c'est l'empereur de Chine qui va gagner cette bataille, on aurait pu imaginer que ça aurait pu plaire au pouvoir, qui s'identifie beaucoup à l'image glorieuse impériale de la Chine.
Mais il aurait fallu que je termine par des images où on a l'armée de l'empereur glorieuse qui repart chez elle fière du travail accompli et des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout. Moi, je termine par des falaises où il y a encore des traces de sang et donc c'est pas du tout la fin qu'il faut pour un récit dans ce pays-là, en tout cas.
Et est-ce que vous savez si ce livre a eu un écho en Chine? Est-ce que le public l'a vu? Est-ce qu'on peut le savoir, ça?
Je le sais assez peu, parce que ce que je sais, par exemple, je sais qu'une fois que le livre a été terminé, je me suis retrouvé, j'attendais que le livre soit publié assez vite. Après, les couleurs étaient terminées, la couverture a été faite et tout. Et en fait, le livre est resté pratiquement un an sur un coin de table avant qu'il soit publié. Donc, au bout de 6 mois, j'ai commencé à écrire à l'éditeur en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Le livre est terminé, pourquoi il ne sort pas ?» Et puis, j'avais des réactions un petit peu curieuses, des messages ne voulant pas dire grand-chose. Et donc, j'ai dû insister beaucoup avec mon agent pour que le livre soit publié. Donc, le livre a été publié de façon assez minimale, sans aucune promotion, et donc il n'a pas été remarqué par grand monde.
Ah, donc il y a quand même une version chinoise qui existe.
Ah, bien sûr, il a été publié il y a 4 ans hein, déjà.
Et on peut se procurer cette version chinoise ou c'est trop compliqué?
Ah, alors là, peut-être sur Alibaba, oui, je...
C'est une question que je me pose en discutant. Je vais regarder ça.
Peut-être, oui. Mais moi, je vous conseille l'édition française parce que elle est 1000 fois mieux imprimée. Et puis, en plus, elle correspond exactement au livre que je voulais faire. Je ne sais pas comment ont été traduits les dialogues, l'ironie des personnages en langue chinoise. Là, c'est exactement le dialogue que j'ai voulu.
Non, l'édition d'Argo est vraiment très belle. Ils savent faire des livres, il n'y a pas de discussion là-dessus.
Oui, puis il y a une belle édition noir et blanc aussi qui a été épuisée très vite. Je ne sais pas si ça se trouve encore. Il y a eu 500 exemplaires numérotés signés de l'édition. Et belle édition noir et blanc parce que je travaille aussi beaucoup les pages, le dessin pour avoir un noir et blanc solide et dramatique, et donc j'étais content qu'il y ait une édition noir et blanc.
Je n'ai pas regardé si c'est vous qui aviez fait les couleurs de cette édition.
Non, c'est un coloriste chinois.
Ah oui,
ouais. Comme j'étais en Chine, je me suis dit, tiens, travaillons avec des gens du cru, et c'est un monsieur qui s'appelle Pan Jiming, et qui est vraiment très doué.
Ouais, tout à fait, il y a de très très belles ambiances, et là aussi, il y a beaucoup de détails qui sont dus à la couleur, en plus du dessin, et qu'il faut remarquer. Et Thierry, je vous remercie pour ce moment passé avec moi, parce que le temps passe, et puis, Et puis, on est arrivé au terme de notre entretien. Donc, je vous remercie encore de nous avoir raconté tout ça sur votre album. Je rappelle donc que c'est publié par les éditions d'Argo. Ça fait 120 pages et c'est au prix de 22,50 €. Voilà, on trouve ça dans toutes les bonnes librairies et assimilées. Et je vous dis à très bientôt.
Eh ben, merci de votre invitation.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.